L'intrapreneuriat gagne du terrain au Québec et pour en discuter, on reçoit le président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, Pierre Graff. Comment ça va, Pierre?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça va bien. L'intrapreneuriat, pas toujours évident. On le voit souvent bien, peut-être en mal aussi. On a peur de perdre des employés, donc on ne voudra pas les amener à l'entrepreneuriat nécessairement, hein? Donc, oui, lancement, vous lancez là, une espèce de une cohorte, vous partez à la recherche d'intrapreneurs, d'entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu avec leurs employés.
Absolument. Dans le fond, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur cette initiative qui est née à la suite d'un sondage qu'on avait réalisé avec Léger. Et une des données qui apparaissait était que près de 30% des moins de 35 ans, donc des jeunes professionnels, qui avaient un intérêt, oui, pour l'entrepreneuriat, souhaiteraient éventuellement se familiariser avec l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise qui les emploie, en développant soit une filiale, soit un projet, par exemple, de transformation numérique. Et c'est justement ce qu'on a essayé de développer avec ce projet qui s'appelle Intrapreneur.
Ça, c'est un besoin qui il y a au Québec parce qu'on le voit là, les entrepreneurs ne courent pas les rues. Ceux qui sont là, il y en a beaucoup aussi là-dedans qui sont non pas à bout de souffle, mais quand même, là, ils doivent ramer fort pour faire en sorte que leur entreprise reste en vie et gagne des parts de marché. Et là, vous arrivez avec cette initiative-là, donc des jeunes à l'intérieur d'entreprises qui pourraient avoir des idées novatrices et faire grandir l'entreprise. Donc, il faut quand même qu'on ait un patron qui est prêt à peut-être céder une partie là, de son actionnariat ou à tout le moins amener les jeunes à l'intérieur même de l'entreprise à voler de leurs propres ailes. C'est quand même.
Alors,
Comment tu perçois ça? Comment c'est perçu ça?
non. Ultimement, c'est sûr que y a 2 objectifs, mettons, à long terme, grâce à l'entrepreneuriat sur lesquels on souhaite travailler. Oui, évidemment, créer une passerelle vers l'entrepreneuriat ou le repreneuriat, pour faire simple, et aussi créer une culture intrapreneuriale. Parce que l'intrapreneuriat, c'est quelque chose qui est triplement gagnant vraiment pour toutes les entreprises. Parce que d'une part, on va, grâce à un jeune professionnel, par exemple, créer une filiale,
Oui.
transformer numériquement une partie de la business, et ça va impacter directement la productivité de l'entreprise. Donc, on va réussir à hausser la productivité en misant sur des personnes et pas forcément à grands coûts en termes de capital. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est que lorsque vous avez vraiment des jeunes qui ont ce profil-là, puis là, on parle de 3 jeunes sur 10 vraiment dans le secteur privé, dans le secteur tertiaire. Ben, ça veut dire que vous avez potentiellement des joueurs étoiles qui voudraient faire une différence qui n'est pas écrite dans leur description de tâche. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire pour une entreprise parce que en termes de rétention potentielle, de réalisation, de développement de compétences, il y a quelque chose de super intéressant et aussi pourrait l'exploiter en le publicisant pour éventuellement attirer d'autres talents. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ben, ça permet aussi vraiment d'exploiter l'esprit entrepreneurial qu'ont certains jeunes et dans un contexte vraiment de manque de relève en entreprise, de baisse des intentions de se lancer en affaires, ben c'est sûr que si on peut éventuellement créer une passerelle vers l'entrepreneuriat, ben ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et tu as mentionné quelque chose de très, très important, Pierre, c'est que il y aurait éventuellement une peur de certains propriétaires de
Oui.
se dire, ben, est-ce que je perdrais un employé? Et ben moi, je pense que c'est une peur qui doit être contrebalancée par les effets positifs de l'intrapreneuriat. Et faut pas oublier que lorsque quelqu'un vraiment, un intrapreneur, va développer une filiale, va aider à transformer numériquement, à prendre le retard que l'on a peut-être au niveau technologique, ben ça, c'est des effets à long terme. C'est des effets positifs sur l'entreprise à long terme. Donc, le fait de mettre ça en place, et surtout le temps que ça prend, on parle généralement de 3 mois à 18 mois pour mettre un projet de cette envergure en place, ben forcément, ça peut être très intéressant pour n'importe quelle entreprise. Et donc, faut se dire qu'il y aura des bénéfices qui vont rester, alors même que la personne pourrait éventuellement partir. Mais toutefois, si la personne a vraiment réalisé quelque chose qui a les effets escomptés, ben pourquoi pas aussi penser à un plan pour l'intégrer à l'actionnariat, puis penser à long
Oui.
terme au transfert et bien organiser le transfert de l'entreprise. C'est quelque chose qui peut aussi être envisagé.
Voilà. Parle-moi de l'initiative que vous lancez, parce que là, vous partez à la chasse on va dire, à la chasse à l'entrepreneur partout au Québec. Vous appelez les entrepreneurs intéressés à développer à l'intérieur même de leur entreprise, de l'intrapreneuriat avec leurs employés. Vous leur demandez de communiquer avec vous et vous allez mettre en place quoi, d'une structure, c'est un concours, un incubateur, comment on peut appeler ça?
Non, en fait, on va faire une sélection de 15 dossiers à travers le Québec. Évidemment, okay. On veut une répartition géographique relativement équitable. On va y aller vraiment avec les meilleurs dossiers, ceux qui ont le plus de potentiel vraiment pour la croissance de l'entreprise. Et on a certains critères assez importants. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les 15 intrapreneurs qu'on va sélectionner, donc les 15 entreprises qu'on va sélectionner pour mettre en place leur projet intrapreneurial, vont bénéficier de près de 25 000 $ de consultation. Donc, oui, le programme a un coût, c'est 7 500 $, mais ce qui est dérisoire par rapport à ce qu'ils peuvent retirer. Et donc, on va chercher des entreprises de à peu près de 20 à 99 employés, c'est pas mal la cible, je dirais, des intrapreneurs qui ont moins de 35 ans, et peu importe le secteur, en fonction du projet qui est proposé, comme je l'ai dit, de création de filiales, donc de création d'une branche de la compagnie qui n'existe pas encore, de mise en place d'un projet important de transformation organisationnelle ou de transformation numérique. Par exemple, on pense par exemple au MRP, ERP, toutes sortes de structures numériques qui sont extrêmement importantes pour la plupart des entreprises. Eh bien, on prendra les 15 meilleurs dossiers à travers le Québec et on formera donc une cohorte. Et le but vraiment des heures de consultation qui sont allouées, que ce soit en groupe ou que ce soit aussi en accompagnement individuel, permettront vraiment à l'entreprise d'avoir des experts pour s'assurer que l'intrapreneur respecte certaines étapes et l'impact aussi du processus et des changements apportés à l'entreprise pour que ça ait toutes les chances de succès et que la croissance de l'entreprise en bénéficie.
As-tu des exemples concrets où il y a des entreprises, des entrepreneurs qui ont fait confiance à l'interne, à des jeunes intrapreneurs et aujourd'hui, ça fonctionne très bien?
Écoute, c'est drôle, moi j'ai commencé un peu ma carrière comme ça aussi, là. Tu m'en parles, mais il y en a beaucoup. D'ailleurs, je pourrais citer des exemples assez extraordinaires. La compagnie Chantier Shibugamo, j'ai appris que eux, c'est au sein de la culture d'entreprise. Tous les employés savent que s'ils voient quelque chose qui pourrait avoir un impact positif sur l'entreprise, peu importe ce que ça coûte, ils peuvent aller le présenter à n'importe quel supérieur hiérarchique et si c'est vraiment pertinent, ils vont le mettre en place. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est un cas, je pense, vraiment à part. Mais je te donne un autre exemple très concret. Lorsque j'ai commencé ma carrière dans une compagnie de détail qui s'appelle Sur Mesure, il y avait déjà des choses qui se faisaient au niveau des services aux entreprises. On vendait un petit peu à des entreprises, etc., mais il y avait rien vraiment de structuré. Mais moi, les propriétaires m'ont fait confiance, puis ils m'ont dit, Pierre, écoute, on va faire un test pendant un an, on te met en place, puis tu développes ce marché-là, et si ça fonctionne, ben, on crée une entité à part entière, et c'est devenu aujourd'hui sur mesure service aux entreprises. Et c'est quelque chose de très concret, donc on a créé une espèce de branche de la compagnie qui est adressée donc à une clientèle complètement différente, avec des besoins différents, et ça a vraiment levé. Donc, parfois, ça peut être des projets numériques, donc des choses technologiques.
Ben oui, ça peut être des divisions numériques.
Techniques, etc. Mais l'avantage, c'est qu'ils auront l'accompagnement d'experts dans le domaine et c'est la compagnie Talsom qui a été donc retenue.
Oui, puis c'est de la valeur ajoutée. Là. Carrément, on prend un employé puis qu'on lui dit, écoute, mets toutes tes compétences à l'œuvre et va développer cette division-là. Donc, on va s'assurer aussi de créer de la valeur ajoutée, un, pour l'entreprise, mais pour l'employé aussi. On le sort de ses tâches peut-être beaucoup plus routinières. Et là, on lui donne un mandat, on le challenge et lui peut, par la suite, mettre ça à son CV et peut-être même diriger éventuellement cette nouvelle branche-là. Là.
Mais c'est sûr que c'est une opportunité extraordinaire de développement de carrière. C'est quelque chose où forcément, ben, on va apprendre énormément. On le voit d'ailleurs, on le demande dans l'inscription, on veut vraiment qu'il y ait quelque part un supérieur hiérarchique qui soit quand même présent pour jouer un peu ce rôle de mentor, en plus évidemment des consultants qui vont accompagner le ou la jeune entrepreneur et forcément ce ou cette jeune professionnelle va avoir la chance de toucher à des choses qu'il aurait peut-être jamais touchées en raison, comme j'ai dit, de sa description de tâche et de son profil qui peut-être ne laissait pas présager qu'il aurait ces responsabilités-là et forcément, ben, c'est vraiment extraordinaire pour, pour leur carrière et, comme je dis, pour l'employeur, parce qu'ils vont permettre vraiment à quelqu'un de se réaliser, de développer ses compétences. Et ça, forcément, je pense que n'importe quel jeune professionnel serait très reconnaissant de cette opportunité.
Parle-moi un peu du moral des troupes au Québec. Je sais que tu sillonnes souvent là, de long en large, de haut en bas. Le Québec, tu l'as fait à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui se passe actuellement, le moral des troupes chez les entrepreneurs québécois? On a quand même une bonne idée comment le moral des troupes se porte, mais quand même, toi, tu es sur le terrain. Qu'est-ce que tu vois actuellement?
Que je le vois, que ce soit dans le sondage réalisé avec Léger, que ce soit aussi dans mes tournées à travers le Québec, je visite beaucoup d'entreprises, c'est sûr que c'est très partagé. Évidemment, il y a des enjeux qu'on pensait conjoncturels suite à la pandémie, comme la santé mentale qui demeure et qui semble vraiment, malheureusement, prendre de l'ampleur. Donc, on a peut-être malheureusement, ben en fait, on a un phénomène structurel qui va demander des réponses structurelles pour adresser ça, parce qu'aussi bien les jeunes professionnels que les jeunes entrepreneurs vraiment souffrent de ce côté-là. Donc ça, c'est sûr que c'est forcément inquiétant, parce qu'on le sait, notre économie perd des milliards chaque année en baisse de productivité liée aux enjeux de santé globale et notamment de santé mentale. L'autre élément qui est important, je dirais que c'est vraiment au niveau de l'investissement. On sent vraiment un ralentissement. On voit que l'incertitude fait que beaucoup de choses sont mises sur pause, des projets d'agrandissement, des projets d'investissement capital et autres, notamment en raison du taux directeur, comme tu le sais, qui est très haut. Donc, on est à 5%, puis évidemment, une politique monétaire qui est très restrictive. Donc, forcément, ça crée, je dirais, un peu un espèce de statu quo qui, évidemment, n'est pas bon, parce que les investissements d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain, et forcément, ça pourrait prendre plus de temps pour repartir, surtout que la Fed américaine, d'ailleurs, ne souhaite pas baisser ses taux. Donc, en plus, le Canada sera peut-être bientôt obligé de baisser son taux de directeur, et ça va devenir un immense problème en raison de la demande de dollars canadiens qui va chuter, et donc la valeur de la devise qui va beaucoup impacter beaucoup de nos entreprises, surtout celles qui importent des biens.
Oui, exactement. Et tout ça, ben, ça fait les coûts d'emprunt qui explosent. Ça fait aussi des coûts importants. Là, on parle de taux peut-être autour de 10% pour certaines entreprises parce qu'on n'est pas capable de se financer en bas de ça. Donc, ça aussi, ça freine la productivité, ça freine l'innovation. Pénurie de travailleurs, jumelée à tout ça aussi, là, c'est quand même important ce qui se passe. Donc, le moral des troupes, quand même, se porte bien. Repreneuriat aussi, hein, dossier chaud, vous aviez travaillé étroitement avec Desjardins aussi au cours des dernières années. Là aussi, il y a du travail à faire, hein, des entreprises disponibles. Il y a pour des entrepreneurs, on peut reprendre une entreprise et partir en affaires de cette façon-là.
Absolument. Tu fais bien de le noter, Pierre. Moi, ça fait 3 ans qu'on a créé l'initiative Mouvement Repreneuriat, qui, je pense, était une des premières initiatives vraiment structurantes pour sensibiliser, outiller et éventuellement mailler des cédants, des repreneurs. On voit évidemment qu'un immense enjeu demeure, qui est le fait que les cédants ne souhaitent pas dévoiler par peur de perdre des clients, des fournisseurs, ou même des employés, donc de dire qu'ils veulent céder leur entreprise. On le voit, c'est toujours un enjeu. On a de la misère vraiment à faire rencontrer l'offre et la demande. Beaucoup de jeunes ont tendance, je dirais, ou de plus en plus tendance à vouloir reprendre l'entreprise. C'est une bonne nouvelle parce que historiquement, c'est 3/4 des gens qui partent en affaires qui créent une entreprise plutôt que d'en reprendre une. Donc ça, il faut que ça change parce qu'on a 76% des business à transférer dans les 10 prochaines années au Canada. Mais l'autre enjeu, puis on en a parlé, c'est l'investissement. Avec un taux directeur à 5% actuellement, financer l'achat d'une entreprise
Ah,
est
c'est.
beaucoup plus difficile. Et donc là, ça aussi, c'est un frein évidemment au transfert harmonieux. Penser vraiment pas à la va-vite, mais sur le moyen long terme. Et forcément, ça va créer des enjeux parce que les gens vont acheter peut-être au dernier moment et ça pourrait éventuellement créer des enjeux supplémentaires suite à la cession.
Ouais, on a un budget aujourd'hui fédéral à Ottawa. On a eu récemment un budget au provincial. Est-ce que vous sentez l'oreille attentive des gouvernements par rapport à tout l'enjeu entrepreneurial, puisqu'on a comme l'impression qu'on prend pour acquis la petite et moyenne entreprise au Québec, au Canada, mais au Québec surtout, qui est quoi? Qui représente 9 emplois sur 10 à peu près, là, grosso modo. Est-ce que tu sens une oreille attentive des gouvernements sur plein d'enjeux, de la PME au Québec?
C'est compliqué parce que si l'on regarde les derniers budgets et très probablement dans le budget aujourd'hui, en raison des larges déficits qui ont vu le jour.
Ouais.
Malheureusement, il est beaucoup plus dur d'avoir des politiques économiques agressives dans lesquelles on investit massivement dans nos PME. Et ça, forcément, ça crée un enjeu. Les gouvernements l'ont fait énormément suite à la pandémie. Puis on a vu d'ailleurs que ça a faussé quelque part le taux de faillite, l'attrition naturelle qu'il y a dans les entreprises. Là, il y a un taux de faillite qui a donc explosé. Il y a un rattrapage qui se fait. Mais il est possible que le rattrapage aille beaucoup plus loin, puis que ça impacte vraiment notre tissu. Alors, sachant qu'en plus, on a des gens qui ont de la misère à racheter des business, on a beaucoup moins de gens qui veulent se lancer en affaires, bah, ça prendra différentes mesures pour être capable de stimuler le démarrage d'entreprise, la reprise d'entreprise, la croissance des entreprises. Et j'espère que ils vont éventuellement poser certaines actions de ce côté-là dans les prochains budgets. Parce que actuellement, la création d'emplois n'est pas bonne. On perd beaucoup d'emplois. Le taux de chômage est
Oui.
revenu à 5% au Québec. Et surtout, la création d'emplois, lorsqu'on regardait le rapport de février, venait à 90% du secteur public. Donc, ça veut dire que le secteur privé est au ralenti.
Oui,
Et ça, c'est
exact.
quelque chose de très inquiétant.
Voilà, donc on va espérer un retournement, mais évidemment, ça peut aller vite. On baisse les taux d'intérêt tranquillement et ça, on peut remettre beaucoup d'oxygène là, dans la machine. Hein? On l'espère d'ici
Alors,
la fin de l'année, là.
ça va être vraiment, ça va être vraiment une décision très, très difficile, comme j'ai dit, de la Banque du Canada, parce que si la Fed américaine ne baisse pas ses taux, les effets positifs sur les ménages de la baisse du taux d'intérêt, du taux directeur, va être très positive pour les entreprises éventuellement aussi. En revanche, avec la chute de la valeur du dollar canadien, ça pourrait créer d'autres turbulences. Donc, c'est vraiment une situation assez rare qui risque de se présenter, qu'on n'a pas vu depuis le milieu des années 90 au Canada.
Ouais.
Et dans ce temps-là, malheureusement, on ne sait pas comment l'économie réagit. Attention, il y a peut-être des turbulences qui nous attendent. Puis j'espère me tromper, peut-être que ça va repartir
Ouais, ben il y
à
a des
l'automne comme
ouais
le
ben
prévoit le gouvernement.
exactement des analystes qui s'attendent, même des économistes qui attendent d'avoir un dollar à 67, 68, 69 cents là, au cours des prochains mois parce que la Banque du Canada n'aura pas joué, on est piégé. Notre économie fait du surplace, les Américains eux roulent sur un train d'enfer. Et eux n'ont pas intérêt à baisser les taux, alors que nous, on est piégés, on devra baisser les taux éventuellement.
Exact. Ben, écoute, je lisais d'ailleurs un article ce matin, tu fais bien de le nommer, qui parlait évidemment d'une cible à 70 cents pour le dollar canadien contre le dollar américain. Et certaines prévisions sont beaucoup, beaucoup
Oui.
plus négatives et on allait dans les 50 hauts. Donc, espérons qu'on ne se rende pas là parce qu'évidemment, ce serait, comme je dis, très, très douloureux pour nos entreprises au niveau des importations. En revanche, il n'est pas impossible aussi que l'économie reparte. Parce que là, c'est sûr qu'il y avait quand même certaines liquidités dans certaines entreprises. C'est juste qu'ils ont reporté leurs projets
Ouais.
d'investissement. Et il faudrait juste qu'il y ait des signes un peu plus positifs pour que ça se matérialise. L'autre chose, c'est l'inflation. Aujourd'hui, les chiffres qui viennent de sortir parlaient d'une inflation à 2,9%. Donc, ce n'est pas suffisant pour que la Banque du Canada baisse tout de suite son taux en juin. Toutefois, si on regarde l'inflation fondamentale, donc celle qui exclut vraiment les éléments les plus volatiles, on est quand même plus proche du 2%, dans les bas 2%. Alors écoute, on va croiser les doigts et espérer que la baisse graduelle de certainement 25 points de base du taux directeur permettra d'éviter un choc économique qui serait négatif pour l'ensemble du tissu économique canadien et québécois.
Voilà. Pierre Graff, merci beaucoup. On va suivre les activités du regroupement au cours des prochains mois. Merci beaucoup.
Merci.